en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur l'ambassadeur, cher ami, votre carrière de diplomate vous a conduit à Washington, à Moscou, à Genève, à New York, à Prague et à Varsovie. Mais la période 1976-1989, où vous avez été en poste au Centre d'analyse et de prévision, puis à la direction politique du Quai d'Orsay, vous a conduit à vous spécialiser dans les questions politico-militaires, les questions essentielles de notre temps. C'est très normalement que vos dernières fonctions au Quai d'Orsay, avant de rejoindre la Cour des comptes, ont été celles de représentant permanent de la France à l'OTAN de 2000 à 2005, une période riche du point de vue des fonctions que vous aviez à exercer. C'est également très normalement que vous avez participé à la préparation du Livre blanc sur la défense en 2007-2008, pour l'édition 2008. Vous restez d'ailleurs toujours très proche des milieux de la défense au sens large, notamment en tant que président du comité scientifique de la revue Défense nationale et comme membre du Senior Advisory Board du secrétaire général de l'OTAN. En même temps, vous poursuivez une réflexion stratégique de fond et vous participez régulièrement à nos travaux écologues universitaires, en particulier comme vice-président de la Fondation pour la recherche stratégique à Paris ou comme vice-président de l'Institut international de droit humanitaire à San Remo. Vous êtes également professeur associé à Sciences Po dans un master intitulé « OTAN et l'Union européenne », titre en lui-même essentiel. Vous publiez régulièrement dans diverses revues, par exemple la revue Défense nationale, la revue Commentaires. Vous avez participé récemment à l'ouvrage collectif sur l'histoire de la dissuasion française intitulé « Résistance et dissuasion » organisé par un colloque du Commissariat à l'énergie atomique et qui a été publié en 2018. Et vous avez participé à un ouvrage collectif de la Brookings Institution sur l'élargissement de l'OTAN qui est en cours de publication, si j'ai bien compris. Les opérations extérieures constituent une mission essentielle de nos armées. Elles n'ont jamais cessé depuis pratiquement la fin de la guerre d'Algérie. Elles ont considérablement influencé l'organisation et les méthodes de nos forces, mais aussi notre action extérieure en général. Les incertitudes actuelles, lien avec les alliés atlantiques, partenaires européens, problèmes budgétaires, évolution de la nature des conflits, y compris des conflits hybrides, des conflits de toute nature dans nos zones d'action qui vont du Sahel jusqu'à l'Afghanistan, à travers le Moyen-Orient, la Syrie. Et dans certains milieux et chez certains commentateurs, peut-être l'apparition d'une sorte de fatigue expéditionnaire, de remise en cause de ce modèle dit expéditionnaire, tout cela justifie que l'on fasse le point. Nul n'est plus qualifié que vous pour le sujet du jour, la conduite des opérations militaires extérieures, une spécificité française en Europe, point d'interrogation, dois-je préciser. Je viens d'apprendre, nous avions prévu tout ce qu'il fallait pour une projection PowerPoint, mais je viens d'apprendre que les services russes, de toute évidence, ont subtilisé la clé USB et l'ont remplacée par une autre, totalement hors sujet. Mais votre talent bien connu d'orateur, votre force pédagogique, vous permettra de suppléer à la présentation PowerPoint que Gérald Petraeus avait fait interdire dès sa prise de commandement, n'est-ce pas, en Irak et Afghanistan, car il trouvait qu'elle détournait l'attention de ses officiers. Monsieur l'ambassadeur, merci encore, vous avez la parole.
Monsieur le chancelier honoraire, monsieur le président, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les académiciens, messieurs les officiers généraux, chers amis, je vous remercie vivement de votre invitation à présenter une question qui est particulièrement importante, comme vous l'avez souligné, pour nos forces armées, notre diplomatie et notre influence dans le monde. Je le ferai avec la réserve qui se doit devant des personnalités souvent beaucoup plus qualifiées que moi-même. Je saisirai aussi cette occasion pour dire mon admiration pour les hommes et les femmes que j'ai pu rencontrer en OPEX, remarquablement compétents et courageux. Enfin, je m'excuse de vous priver de cinéma, je m'excuse de slides pour des raisons techniques. Aujourd'hui, il est des signes qui ne trompent guère quant à l'actualité et du débat sur les OPEX. La multiplication à ce sujet des ouvrages, témoignages et essais révèle un nouvel intérêt pour ce qui apparaît le plus souvent, notamment dans les publications anglo-saxonnes, je pense aux travaux de la Rand Corporation, comme une véritable spécificité française. Parmi ceux-ci, et sans être limitatif, je ne voudrais pas manquer de citer l'ouvrage que vient de publier le général Bentejar, qui comporte un récit détaillé des décisions militaires prises sous le président Jacques Chirac, la chronique de Nathalie Guibert et d'Isabelle Lasserre sur les éternels débats entre les frères ennemis de Ballard et de Bercy, les témoignages sur le vécu des opérations et l'intéressant essai de deux jeunes officiers de l'école de guerre sur l'efficacité ou non des opérations actuelles. Au-delà du renouveau général de la réflexion sur les questions de défense et de l'évolution des conflictualités, ce nouvel intérêt pour les OPEX traduit également une série d'interrogations plus larges. J'en mentionnerai trois qui sont en quelque sorte l'arrière-plan du débat actuel. Premièrement, trois décennies de sous-financement budgétaire ont sérieusement affecté les capacités de nos armées. On peut prévoir la poursuite de ces contraintes budgétaires, au moins jusqu'à la promesse de réexamen fixée à la fin du quinquennat par la LPM. La question est donc posée de savoir si les coûts des nouveaux équipements rendus nécessaires par le durcissement des conflits sont compatibles avec le modèle actuel d'armée qui demeure austère. Deuxième interrogation, allons-nous assister dans les prochains mois ou années, comme le souhaitent à la fois les armées et le président de la République, à une réduction de l'empreinte des opérations actuelles grâce à la montée en puissance des armées locales, on pense au G5 Sahel, bien sûr, et à la modulation de nos engagements, réduisant le nombre et la durée de ceux-ci. Troisième interrogation, la déclinaison du modèle français est-elle à terme transposable au niveau européen? C'est ce qu'a implicitement proposé le président Macron avec l'initiative européenne d'intervention. Elle réunit depuis juin dernier 9 pays européens dans le but de favoriser l'émergence d'une culture commune d'intervention autour d'un nombre restreint de pays à la fois capables et volontaires. Pour essayer de répondre à ces interrogations, je voudrais rappeler l'acquis que représentent aujourd'hui nos OPEX depuis une vingtaine d'années, les évolutions possibles du modèle. Mais auparavant, permettez-moi de mentionner quelques éléments de contexte chez nos alliés. Le contexte actuel, je le caractériserai par quatre tendances. D'abord, le retrait de l'OTAN et de certains de nos partenaires les plus proches des opérations terrestres au profit des moyens aériens et des coalitions de circonstances. L'OTAN, qui a encadré les opérations au Kosovo et en Afghanistan, a de facto abandonné son option expéditionnaire. On l'a constaté, par exemple, lors de l'opération en Libye, où seulement un tiers des alliés ont participé activement. C'est donc désormais les coalitions de circonstances qui comptent, comme on l'a vu récemment en Irak dans la lutte contre Daesh. La priorité est également donnée aux opérations aériennes avec les quelques alliés susceptibles encore de les mener. L'équilibre des forces au sein de l'Alliance est donc modifié. En réalité, le débat sur le rôle des alliés dans une coalition n'aura jamais de fin, le poids diplomatique et le degré d'implication militaire effectif demeurant le seul élément déterminant du degré d'écoute à Washington. D'autant que l'attitude américaine a changé. Et on l'a vu avec le retrait des éléments américains décidé par le président Obama au beau milieu de l'opération de Libye, puis son abandon des lignes rouges en Syrie. Ceci a perturbé l'OTAN et ouvre de nouvelles perspectives pour les coalitions à géométrie variable. Plus récemment, il y a tout juste un an, le rôle confié à la France de leader de l'opération Hamilton aérienne et maritime pour l'attaque en avril de l'an dernier des installations chimiques syriennes a montré la possibilité de nouvelles configurations à trois alliés, même si en l'occurrence Londres s'est montré assez vexé d'avoir été considéré comme le partenaire junior. Les ménages à trois sont toujours difficiles à gérer. Deuxième observation, les difficultés britanniques et les hésitations allemandes. Nous avons maintenant au sein de l'armée française les quatre générations successives des officiers de la Bosnie, du Tchad, de l'Afghanistan et maintenant du Sahel. Cette expérience en OPEX est irremplaçable et nous place dans une situation particulière par rapport à nos partenaires. Nous déployons actuellement 4500 hommes au Sahel avec l'opération Barkhane. Même s'il nous apporte une coopération utile sur le plan du transport tactique et pour les Britanniques, pour les hélicoptères lourds, nos partenaires demeurent cependant en retrait, même s'ils affirment partager nos inquiétudes sur l'instabilité de la zone. Pourtant, la coopération franco-britannique en matière d'intervention sous forme d'une force conjointe créée en 2019, est d'autant plus importante pour Londres qu'avec ou sans Brexit, l'armée britannique, que nous avons longtemps considérée comme seule équivalente à la nôtre en Europe sur les théâtres extérieurs, a beaucoup souffert. Il s'agit non seulement de la fatigue des opérations en Irak et en Afghanistan, qu'évoquait le président, mais aussi et surtout des réductions budgétaires drastiques opérées à compter du gouvernement Cameron pour financer simultanément les deux porte-avions, le coûteux F-35, trois fois le prix du Rafale, et le Trident. S'agissant de Berlin, la brigade franco-allemande a permis, en tenant compte des différences culturelles et politiques que l'on sait, d'élaborer des pratiques communes et, en dépit des limitations imposées par le Bundestag, de travailler ensemble, y compris au Sahel, en appui des organisations internationales. Des coopérations et des mutualisations utiles en OPEX, pour nous, sont également mises en œuvre avec d'autres pays européens, comme la Belgique et même l'Estonie. Peu connu, un organisme commun, le ATC, joue avec succès le rôle d'agence commune européenne d'affrètement aérien. L'Afghanistan a été une expérience importante pour les alliés, qui ont beaucoup appris collectivement en termes d'interopérabilité. Mais on sait également que cet acquis peut se perdre aisément en quelques années et devenir inadapté par rapport à la configuration des nouveaux conflits. C'est tout le sens de l'initiative européenne d'intervention du président Macron et ce qui en fait tout son intérêt pour nos partenaires. Elle s'articule aussi sur le plan bilatéral avec la coopération à long terme avec les Britanniques pour la force conjointe d'intervention combinée. Le dialogue supposé avec l'EI vise aussi à combler une importante lacune dans le réseau des coopérations que j'appellerais mini-multilatérales, qui se développent en Europe. Qu'il s'agisse du Nation Concept Framework allemand, 9 pays à vocation essentiellement capacitaire, ou de la UK Joint Expeditionary Force, qui réunit autour de la Grande-Bretagne 5 pays nordiques, ainsi que le Danemark et les Pays-Bas. Mais celle-ci a seulement vocation à s'insérer dans la force d'intervention rapide de l'OTAN. Donc, ni l'une ni l'autre, à la différence de 2I, ne concerne les opérations extérieures. Et l'OTAN, après l'Afghanistan et la Libye, a choisi de se recentrer sur la défense à l'Est et a pour le moment abandonné de facto toute vocation expéditionnaire. Troisième tendance, la montée en puissance des forces spéciales. Celles-ci, à la différence des opérations extérieures des agences de renseignement, sont intégrées sous statut spécial aux forces régulières. Elles vont jouer un rôle déterminant pour les Américains en Irak et en Afghanistan. En France, elles accompagnent toutes les OPEX et y jouent un rôle essentiel, ne serait-ce que pour gérer les opérations aériennes et préparer la progression des troupes terrestres. Quatrième tendance, la médiatisation croissante des opérations. Elle a changé le regard des opinions sur les OPEX. À partir de quelle date l'irruption des moyens de communication modernes change-t-il ce regard? Dans le passé, Colvézi, en mai 1978, demeurait la première intervention dont le grand public avait gardé le souvenir après l'Algérie et l'expédition de Suez. Dès 1983, au Tchad, avec l'opération Épervier contre les éléments soutenus par Kadhafi, l'armée française va s'installer durablement et pour longtemps à N'Djamena. Il demeure que c'est la guerre du Golfe en 1990-91 qui va marquer une nouvelle étape. L'intervention française s'effectue alors sans recours à des appels du contingent. Il s'agit donc du premier pas vers la professionnalisation des armées réalisée à partir de 1996. C'est un tournant qui va conduire à une modification de la perception des OPEX dans l'opinion. Celles-ci deviennent alors davantage et pour un temps l'affaire quasi exclusive des politiques, des diplomates et des militaires. Lorsqu'ils s'y intéressent, et assez médiocrement, l'opinion se focalise d'ailleurs sur la France-Afrique, oubliant aussi qu'il s'agit alors aussi bien du Liban, de l'Arabie Saoudite, du Cambodge ou d'Haïti. Mais l'attitude de l'opinion va se modifier progressivement avec l'introduction des nouveaux outils de communication, le primat de l'image et la multiplication des blogs. Cette médiatisation va changer la donne. L'opinion nationale doit être désormais convaincue du narratif des opérations. Ainsi, la lutte contre Al-Qaïda, la condition des femmes afghanes, la lutte contre la drogue ou la solidarité avec les États-Unis n'ont pas toujours fait de l'Afghanistan une guerre lisible pour les Français, notamment après les morts d'Usbin. Il en a été de même pour la Côte d'Ivoire. Les forces armées ont donc dû démultiplier leurs efforts de communication à partir de 1998. Des officiers spécialisés seront désormais affectés en nombre dans les forces et des journalistes invités en OPEX. La communication va aussi s'établir dans les deux sens, ce qu'on oublie souvent. Désormais, le soldat en OPEX communique par Skype ou Internet avec ses proches, et ceux-ci, à leur tour, se font auprès de lui l'écho de la perception de l'opération en France. On commencera à le noter lors de l'opération Licorne, en Côte d'Ivoire. En OPEX, le phénomène compte aussi pour le moral des combattants. Ainsi, en Afghanistan, lors de l'opération Épidote, la première revendication des soldats français, en dehors d'un habillement mieux adapté aux conditions locales, est la gratuité de la liaison Internet dont bénéficient déjà à l'époque leurs camarades alliés. J'en viens maintenant à la question de l'acquis. Nos forces armées ont mené près de 150 OPEX, dont le nombre, la pluralité des objectifs, la géographie, le niveau des effectifs et la durée ont considérablement évolué. Elles ont été si diverses que l'on peut légitimement se poser la question, y a-t-il aujourd'hui véritable ADN spécifique aux OPEX françaises? La réponse est positive à mon avis, mais deux précautions doivent être mentionnées au préalable. La première précaution consiste à rappeler que chaque crise est différente dans ses origines et son évolution. Il n'y a pas de modèle ou d'objectif recherché unique. On constate au contraire une grande diversité. Quel est le rapport entre une évacuation maritime de 4000 ressortissants à Beyrouth, les opérations humanitaires en Somalie, une longue opération de séparation des ethnies comme Licorne en Côte d'Ivoire, une opération dans le cadre des Nations Unies à la frontière d'Israël comme Daman, ou la participation à la présence de l'OTAN dans les pays baltes? Une opération ne se caractérise pas non plus par la durée envisagée, car pèse toujours l'hypothèque d'un revirement politique, comme on l'a vu par exemple en Afghanistan, où après une lente montée en puissance, un retrait brutal est annoncé en 2011. En second lieu, il faut noter l'impact politique de certaines opérations, parfois avec des effectifs tout à fait minces et qui n'ont pas toujours été les plus visibles pour les opinions. Elles ont représenté cependant de véritables tournants, notamment vis-à-vis de nos alliés. Je pense en particulier à trois opérations, aujourd'hui oubliées, qui ont à l'époque eu de grandes conséquences. En Bosnie, la reprise par les éléments français décidée par le président Chirac en dehors de toutes les procédures onusiennes du pont de Vubrandja, en rétorsion à la capture des soldats de la force prenue par les Serbes, va être un élément déclencheur d'une véritable réorientation de la politique des alliés dans les Balkans et d'une redéfinition de la notion du rôle des casques bleus. S'agissant de l'opération Artemis au Congo en juin 2003, la France avec ses alliés européens et en particulier l'Allemagne assure à Bunia au Congo un appui à la MONUC pour des élections dans le cadre de ce qui sera la première opération militaire indépendante de l'Union européenne. Elle se place délibérément en dehors du cadre de l'accord Berlin Plus qui régit le soutien éventuel de l'OTAN aux opérations de l'Union européenne. Il s'agissait de créer le précédent de l'autonomie des actions militaires européennes et je me souviens que le secrétaire général de l'OTAN, George Robertson, n'était pas très content. Troisième exemple, comme le rappelle le général Benteja dans son ouvrage, il n'était pas acquis de renouer à Washington en juillet 2003, compte tenu de notre position sur l'Irak. Il a fallu l'engagement, l'opération Ares, au début de la campagne d'Afghanistan, de 200 membres des forces spéciales françaises auprès de leurs camarades américains, aux abords de la frontière pakistanaise, à Spin Boldak et à Khalabad, pour que change alors le regard du Pentagone sur l'efficacité de nos forces. Ces précisions apportées, il me semble que la spécificité des OPEX à la française tient à quelques caractéristiques. J'en discernerai cinq. Ils sont à la fois celles que retiennent les armées elles-mêmes, mais aussi les analystes français ou les chercheurs britanniques ou américains. Ces derniers ayant toutefois tendance à se concentrer sur l'expérience africaine, alors qu'elle ne représente globalement sur la période que 47% des engagements en OPEX. La première spécificité est celle de la réactivité et de la flexibilité qu'assure une démarche indépendante. Sur le plan politique et institutionnel, la France bénéficie, comme vous le savez, d'un contexte qui a été présenté dans cette Assemblée en février dernier par le conseiller d'État Jean Massot et qui autorise une très grande réactivité, comme on l'a vu à Serval, mais aussi des opérations qui peuvent se prolonger dans la durée, moyennant la consultation du Parlement. Sur le plan militaire, cette réactivité est assurée par le commandement interarmé que constitue le CPCO, qui assure une forte coordination au niveau stratégique. La DGRIS assure de son côté l'interface entre l'état-major et le Quai d'Orsay. Nos alliés européens sont moins favorisés à cet égard. Même si Berlin a abandonné l'interdit sur les OPEX, le Bundeswehr n'en demeure pas moins lié par les procédures du Bundestag et surtout les délibérations souvent longues au sein de la coalition. On a pu le constater à propos de la Libye en 2011, lorsque l'attitude du ministre libéral des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, a conduit les officiers allemands et les pilotes des AWACS de l'OTAN à devoir se retirer officiellement de leurs fonctions pour la durée de l'opération. Les personnels allemands engagés ont également la possibilité de faire remonter leurs doléances directement auprès du Bundestag par le biais de l'équivalent d'un représentant syndical, même s'ils n'en portent pas le nom. D'ailleurs, ils ne s'en privent guère. Les autorités britanniques, quant à elles, à la suite de l'Irak et du rapport Chilcot, ont beaucoup perdu en autonomie, à la fois sur le plan opérationnel et vis-à-vis du Parlement, comme on a pu le constater en 2013 lors de l'opération contre les sites chimiques en Syrie, annulée ensuite par le président Obama. Lors de l'opération en Libye, la possibilité... Souvent, le premier réflexe de Londres comme de Berlin est, pour des raisons davantage politiques que militaires, de s'en remettre d'abord aux états-majors de l'OTAN. Parfois même avec une certaine duplicité. Les Britanniques, lors de la préparation de l'opération en Libye, avaient invité au QG britannique de Norwood les officiers français en vue d'une préparation bilatérale de l'opération, alors qu'ils discutaient déjà simultanément à Ramstein avec les Américains en vue d'une opération placée dans le cadre de l'OTAN. Une seconde spécificité est le large degré d'autonomie laissé aux responsables sur le terrain. Elle contraste avec la pratique alliée. Elle est facilitée par l'adoption d'une modularité, celle des groupements tactiques interarmées, entre 300 et 400 hommes, devenus l'unité militaire de base en OPEX. Les GTIA peuvent agir au niveau d'une brigade ou de manière autonome. Elles sont ainsi en mesure de s'adapter au contexte local et assurent la possibilité de mettre en jeu trois atouts des forces françaises en OPEX, qui compensent en partie la faiblesse des effectifs en jeu. Une rapidité dans la prise d'initiative sur le terrain, une grande flexibilité organique et une culture expéditionnaire qui autorise la prise de risque. C'est ce qu'on a souvent qualifié de combat des capitaines. En Afghanistan, le général américain Odierno avait recommandé que l'on s'inspire de ce modèle français. Mais cette culture de l'autonomie et de l'initiative cadre mal avec les procédures américaines et celles de l'OTAN. Du côté français, des solutions ont donc dû être trouvées pour assurer la meilleure efficacité au niveau des coopérations internationales. Dans le cas de l'ONU, c'est le plus souvent la juxtaposition d'une force militaire française et d'une force onusienne, dans laquelle, pour faciliter la coordination, des éléments français peuvent être insérés, comme actuellement au Sahel, avec la MINUSMA et la MINUSCA, et comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire et au Congo. Ce montage est non seulement souhaité à New York, mais fournit une assurance de protection éventuelle aux forces onusiennes en cas de crise. Dans le cas de l'OTAN, la nature même de l'institution rend le maintien de l'autonomie opérationnelle plus difficile, comme on l'a constaté en Afghanistan, où non seulement les commandements alliés et américains étaient séparés, mais où encore poursuivaient des stratégies très changeantes. De plus, de nombreux alliés avaient des règles d'engagement qui ne coïncidaient guère, les fameux caveats. Enfin, l'institution des PRT, Provincial Reconstruction Team, qui ambitionnait une intégration civilo-militaire au niveau régional, devait encore compliquer la situation. Lors de l'opération en Libye, la possibilité pour les hélicoptères armés français de marauder à la recherche d'objectifs terrestres a donné quelques soucis aux planificateurs otaniens du CAOC de Poggio Renatico, mais ils ont dû ensuite en reconnaître l'efficacité opérationnelle. Troisième spécificité française, celle de la recherche du contact avec les populations. Là encore, il s'agit de compenser indirectement la faiblesse des effectifs sur le terrain. Cette approche, qui s'inscrit dans une longue tradition héritée des officiers des affaires indigènes, cherche à bénéficier des soutiens locaux, des renseignements qu'ils apportent et des facilités opérationnelles qui en découlent lorsque l'adversaire tend à se diluer au sein des populations locales ou de vastes étendues du Sahel. du Sahel. Cette politique qui refuse la bunkérisation n'est pas sans risque. Le durcissement des opérations avec des adversaires mieux armés, plus mobiles, ainsi que la probabilité future de davantage de combats en zone urbaine constituent évidemment un problème pour l'avenir. En dépit de cette priorité reconnue, les armées françaises n'ont jamais tout à fait résolu la question des opérations civilo-militaires dites simiques. Pas davantage qu'à Paris, on a réussi à trouver sur le plan interministériel les formules adéquates pour gérer la stabilisation post-crise. Ce problème se retrouve d'ailleurs également chez nos alliés. Sans remonter au SAS en Algérie, les opérations simiques figurent parmi les activités obligées en OPEX. Il demeure que les moyens consacrés restent beaucoup trop modiques. Parmi les actions les plus efficaces figurent par exemple les soins apportés aux populations locales par le service de santé des armées. En Afghanistan, médecins et infirmières, portant un léger voile pour respecter les usages locaux, étaient les seuls à pouvoir entrer en contact avec les femmes afghanes et être invités dans les demeures. Or, le service de santé des armées a été l'une des grandes victimes des coupes sombres recommandées par les auditeurs civils de la très néfaste RGPP. Le départ entre actions à court terme, creuser un puits, aménager un dispensaire ou une école typique des CIMIC, et les actions à plus long terme de développement dans le cadre de la stabilisation et du post-crise est de surcroît difficile à opérer. Chacun reconnaît que le militaire ne peut à lui seul résoudre la crise et gagner la guerre sans qu'intervienne en parallèle une consolidation de l'État et de la société. Il demeure qu'entre militaires et professionnels du développement, qu'il s'agisse de l'AFD française ou des institutions européennes, lesquelles mettent à la disposition des pays en situation de crise des fonds très importants, le dialogue ne s'établit pas spontanément. Les raisons sont bureaucratiques et de culture institutionnelle. Le développement de l'action des ONG pose également pour les militaires la question de la sécurité de leurs membres. Dans les zones les plus dangereuses, comme on l'a vu en Afghanistan, elles sont tout naturellement très soucieuses de leur indépendance vis-à-vis des militaires pour asseoir leur crédibilité vis-à-vis des populations locales. Certes, quelques progrès ont été enregistrés, par exemple avec le fonds Minka de l'AFD, et l'Alliance Sahel, qui depuis 2018 s'efforce de coordonner les efforts européens en vue de financer une approche associant sécurité et développement. Mais on demeure loin des approches intégrées souhaitables par les jeunes auditeurs du récent ouvrage sur un sentiment d'inachevé, réflexion sur l'efficacité des opérations. Ces derniers, pour trancher dans le vide, recommandent l'arrivée sur le terrain d'un haut commissaire adoubé par le président de la République et doté de l'ensemble des pouvoirs de coordination. On voit bien comment une telle proposition peut se heurter, a priori, aux objections du Quai d'Orsay et de Ballard. En Afghanistan, comme en Irak, les Américains ont tenté une telle formule de tsar de la stabilisation. Elle a échoué. Si la mission de Pierre Lelouch en Capisa a permis de dégager des fonds supplémentaires, son efficacité est cependant demeurée limitée. L'Union européenne serait a priori le meilleur vecteur d'une mise en œuvre d'une approche de sécurité-développement globale et elle s'y affirme d'y poser. Mais la priorité du Sahel ne fait pas encore l'unanimité, notamment parmi les pays d'Europe orientale. Au demeurant, même en assurant une sorte de demi-protectorat au Kosovo, l'Union européenne n'a pas obtenu en près de 20 ans les résultats escomptés. Le problème n'est donc pas propre à la France. Ainsi, il a fallu 10 ans pour que l'OCDE admette enfin que certaines formes d'aide à la sécurité dans les pays en crise puissent être admises dans des conditions ultra restrictives au titre des statistiques de l'aide au développement. Lorsqu'en 2017, Mme Merkel a proposé qu'au titre de l'engagement de l'objectif des 2% du PNB affecté aux dépenses de défense souscrites par les pays de l'OTAN, les dépenses liées à la stabilisation puissent entrer en ligne de compte, les oppositions se sont multipliées. Les militaires, y compris les nôtres, ont craint qu'on s'éloigne du Graal des 2% pour leur propre budget, tandis qu'à l'OTAN, on redoutait de perdre de vue l'utilisation des sommes qui seraient ainsi mises en œuvre. Pourtant, l'idée faisait du sens. Une quatrième spécificité française dans le domaine des OPEX réside dans les facilités des forces prépositionnées et des bases permanentes. En raison de l'importance que représentent les questions logistiques et d'accès au théâtre d'opération, elles sont d'un grand atout. Nous-mêmes et nos alliés avons connu des difficultés d'accès au théâtre lorsqu'il s'agissait, par exemple, de l'Afghanistan. La route du Pakistan était coûteuse et aléatoire, et celle de la Russie et de l'Asie centrale, soumise au bon vouloir, chèrement monnayée, du Kyrgyzstan, base de Manas, et du Tadjikistan, base de Dushanbé, que nous partagions avec les avions russes. Pour l'opération Serval, nous avons dû effectuer un long détour le long des côtes marocaines de la Mauritanie avant que l'Algérie autorise le survol de son territoire. L'Italie elle-même a fait, au début de l'opération Armata en Libye, des difficultés pour utiliser la base sicilienne de Sigonella, plus proche de la Libye, conduisant nos aviateurs à renforcer la base de Solanzara en Corse. La différence avec les OPEX africaines réside dans la facilité que peuvent procurer les forces prépositionnées et les bases permanentes dont la France dispose de longue date. Elles peuvent constituer un réservoir de forces à proximité du théâtre, mais surtout un appui logistique qui se double dans la région du Golfe, aux Émirats et à Djibouti, d'un atout politique. Fort heureusement, les propositions de la RGPP et du Livre blanc de 2002, consistant à réduire les bases et les points d'appui en Afrique à deux seulement, à Dakar et Djibouti, ont été rapidement abandonnées. Cet atout français des forces prépositionnées et des bases permanentes pourrait également se révéler utile s'agissant du Pacifique si un jour des opérations devaient être envisagées en Asie. Une cinquième spécificité de l'approche française en OPEX, souvent méconnue, est la vigilance avec laquelle sont observées sur le plan opérationnel dans les OPEX nationales les règles du droit de la guerre et du droit humanitaire international. Je précise qu'il s'agit bien des règles opérationnelles adopté en opération et non du débat beaucoup plus large et controversé de l'intervention humanitaire au nom de la responsabilité de protéger dans le cas de la Libye ou des débats qui continuent depuis un quart de siècle autour de l'opération turquoise au Rwanda. Il ne s'agit pas, comme certains l'ont dénoncé, d'une judiciarisation des opérations, mais d'une approche bien comprise associant les engagements souscrits internationalement et l'objectif de soutien des populations locales. Elle est également conforme aux valeurs que nous défendons. Les légats chargés de dire le droit par rapport à une situation ambiguë en opération ne disposent pas d'un carton rouge, mais ils ont pour rôle de placer les responsables militaires de l'opération face à sa propre responsabilité. Il en va de même de la situation des pilotes d'avion devant effectuer des frappes dont ils estiment qu'elles peuvent provoquer des dommages collatéraux sur les populations civiles. En Afghanistan, on a vu souvent des pilotes français refuser de suivre les ordres du contrôleur au sol qui les enjoignait de procéder à une frappe qu'ils estimaient trop risquée pour les villageois. Avec amertume, ils dégageaient, laissant la place à un appareil allié moins regardant. Les mêmes problèmes se posent évidemment avec les frappes armées à partir des drones, notamment aux zones urbaines, qui ne sont pas fondamentalement différentes des frappes aériennes, sinon par le positionnement géographique du pilote. La France elle-même a contribué à l'élaboration des règles humanitaires du droit de la guerre, dont on célèbre cette année la 70e anniversaire. Mais le monde a beaucoup évolué depuis lors, avec notamment l'explosion du nombre de conflits dits non internationaux et les acteurs irréguliers. Le CICR, gardien du temple, est bien conscient de la nécessité de dégager des compromis et des adaptations. Il demeure que dans la mesure où en OPEX, la France opère le plus souvent avec l'aide d'alliés locaux, la formation de leurs officiers en droit humanitaire est évidemment de notre intérêt. Et c'est ce que nous faisons à Sanremo et dans nos écoles militaires. J'en viens maintenant aux évolutions possibles. Le général Lecointre n'a pas caché son diagnostic concernant le futur des OPEX. Le CEMA, rappelant les conséquences de 3 décennies d'austérité budgétaire, s'est interrogé sur l'avenir. Je le cite. « À l'issue de la nouvelle programmation militaire qui s'ouvre, nos armées ne seront plus éreintées, sous-équipées, sous-dotées. Reste à savoir si elles seront capables d'être engagées sur plusieurs théâtres dans des conflits peut-être plus violents, en tout cas très différents. » La nouvelle LPM vise en effet à combler un certain nombre de lacunes constatées lors des dernières OPEX. Insuffisante du nombre de drones performants, lacunes capacitaires concernant les ravitaillements en vol et le transport tactique, retard dans le renouvellement des programmes d'engins blindés et le programme Scorpion. Plus préoccupante à moyen terme est l'évolution des conflictualités futures. Les analyses du CEMA rejoignent les conclusions de la revue de défense stratégique de 2017. Certes, comme le soulignait Klaus Witt, la guerre est un caméléon, et Lawrence Friedman, dans un ouvrage récent sur le futur de la guerre, montre que généralement les analystes se sont le plus souvent mépris dans leurs prévisions. Il demeure que l'invasion de l'Ukraine en 2014 et la bataille de Mossoul en 2016-2017 pointent déjà dans un certain nombre de directions. La première direction, c'est d'abord la fin de la période où les Occidentaux, dont la France, ont pu bénéficier en OPEX de ce qu'on a qualifié de confort stratégique. Elle se marque notamment par le développement chez les adversaires, y compris non étatiques, de technologies militaires dites nivelantes qui entament la supériorité occidentale. On constate aussi la prolifération de dispositifs désormais accessibles dans le commerce, comme les brouilleurs de GPS ou l'utilisation de mini-drones rustiques équipés pour le renseignement, le largage d'explosifs. Surtout, compte tenu de l'évolution de l'urbanisation dans le monde, Les stratégies asymétriques mises en œuvre dans les récents combats urbains au Proche-Orient réintroduisent à nouveau l'importance de l'effet de masse des effectifs, comme on l'a vu à Fallujah et à Mossoul. L'expérience du conflit ukrainien succédant à celui de la Géorgie a également confirmé l'intérêt du concept des guerres hybrides développé par le général Gerasimov. Les effets dits cinétiques ne sont plus les seuls à entrer en jeu. Désinformation, dissimulation, attaques cybernétiques, utilisation politique des forces spéciales et des supplétifs locaux sont autant de cartes dans le jeu. Enfin, le retour à la conflictualité entre grandes puissances qui avait été gelée pendant la guerre froide doit être pris en compte avec ce que ceci implique de stratégie de déni d'accès au niveau régional. Dans ces conditions, on comprend la préoccupation du général Lecointre d'être en mesure de dégager des marges de manœuvre en obtenant une modulation de nos engagements en sorte de pouvoir faire face à une crise majeure et imprévue. Maintenant, dans les médias, c'est-à-dire d'ici la révision à mi-chemin promise de la LPM en fin de quinquennat, plusieurs approches peuvent être envisagées sur le plan financier, sur le plan international et sur le plan politique. Sur le plan financier, il est indispensable de stabiliser les modes de financement des OPEX. La manœuvre de Bercy consistant en décembre dernier, en échange d'un accroissement de la dotation du budget de la défense de 1,7 milliard, de mettre fin pour toujours à la pratique de l'appel à la solidarité interministérielle pour compenser les surcoûts des OPEX au-delà de leur dotation budgétaire initiale, toujours insuffisante, contredit une pratique vieille de 15 ans. Or, cette solidarité interministérielle avait assuré globalement 16% du surcoût des OPEX en dehors des crédits propres à la défense. La perte pour les armées s'élève cette année à 850 millions. Le ministère de la Défense participait lui aussi à hauteur de 20% à cette interministérialisation du financement du déficit des OPEX. Mais cette contribution évitait de perturber des programmes d'équipement déjà très contraints. Sur le plan financier, ce sont les coûts supplémentaires, ne serait-ce qu'en raison de la renégociation des contrats avec les industriels. Il sera difficile de trouver une alternative en dehors d'un recours accru à la procédure des urgences opérationnelles, pratique déjà admise, pour faire monter des priorités par rapport à la programmation budgétaire interne du ministère, mais toujours dans l'enveloppe du ministère de la Défense. Ballard pourrait cependant se décharger des coûts induits par l'aide à la promotion des matériels d'armement à l'exportation qu'il assure actuellement et se montrer également plus ouvert aux externalisations, y compris au profit des sociétés militaires privées françaises. Celles-ci, parce qu'elles ont été confondues à tort, pour des raisons idéologiques, avec les mercenaires, ne disposent pas d'un statut juridique adapté. Or, s'agissant de la lutte contre la piraterie maritime dans l'océan Indien, la marine a bien dû se résigner à demander aux armateurs d'y avoir recours. Sur le plan des procédures budgétaires, nos autres alliés n'ont pas dégagé des formules qui soient transposables. Les Britanniques, à l'époque de l'Irak et de l'Afghanistan, ont utilisé des facilités exceptionnelles et temporaires, mais la Treasury s'était employée ensuite à en récupérer les fonds, allant jusqu'à exiger un peu stupidement le rapatriement des matériels d'Afghanistan. Les Américains, avec la procédure des OCO, Overseas Contingency Operation, assurent au Pentagone une confortable dotation spéciale. Elle est séparée du budget du Pentagone et donc non soumise aux séquestrations du Congrès. Elle est cette année d'un montant de 69 milliards, soit 8% du budget global du Pentagone, mais on considère que 20% de ce fonds spécial est en fait utilisé à d'autres fins que les OPEX. Deuxième piste, un recours accru à l'international. C'est une pratique déjà largement explorée. Toutefois, une modulation politique du niveau de nos engagements a d'évidentes implications, notamment parmi nos alliés africains. L'accroissement de leur contribution militaire, déjà recherchée avec les efforts de formation engagés, suppose également le rééquipement de ces armées. Or, nos partenaires européens n'auront a priori aucune raison de se substituer à nous s'ils constatent que nous cherchons d'abord à réduire la voilure. Un recours plus important aux Nations Unies et aux organisations régionales relève essentiellement d'un renforcement des efforts d'aide à la stabilisation. Il est déjà mis en œuvre dans le cadre des différentes missions de l'ONU auxquelles nous collaborons. Il demeure que la faiblesse de nos contributions internationales non obligatoires affaiblit notre position à New York et que les nouvelles orientations américaines, comme l'attitude russe, ne facilitent guère nos plaidoyers devant le Conseil de sécurité. Sur le plan politique, enfin, un consensus existe sur le fait qu'abandonner la possibilité d'intervenir demain avec les moyens adéquats au Sahel, au Maghreb et au Proche-Orient aurait de sérieuses conséquences pour notre sécurité et notre statut international. Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, l'approche la plus évidente consisterait à obtenir que ce soit sur la phase de l'inachevé des opérations militaires que la solidarité interministérielle soit rétablie. en fléchant davantage une plus grande partie de notre aide au développement, 3 milliards par an, dont 1,2 milliard en national, et une proportion plus importante des moyens dont dispose l'Union européenne en direction des politiques de stabilisation des post-crises. Tout le monde reconnaît que le développement suppose la sécurité, mais une telle réorientation suppose, à mon avis, une rupture avec une certaine conception du développement durable qu'on peut contester, et avec l'inertie des structures d'aide. En conclusion, je noterai que la compréhension par l'opinion publique du narratif des OPEX ne doit pas être dissocié de l'effort constant pour mieux informer les opinions, notamment chez nos partenaires européens, des réalités du monde qui vient. L'opinion française ne souffre pas du syndrome irakien, toujours présent chez les Britanniques et les Américains. Nos autres partenaires européens oscillent, quant à eux, entre l'isolationnisme pacifiste allemand ou en mode scandinave et une certaine paranoïa balte et polonaise, au demeurant compréhensible compte tenu de leur situation géographique. Le travail de conviction de nos partenaires, donc, demeure un défi constant. Deux interrogations, enfin, dépassent largement le cadre des OPEX. La première, c'est la priorité absolue donnée actuellement par l'administration américaine à la reconquête de sa supériorité technologique dans les armes du futur, espace, hypervélocité, cyber, sur la Chine et accessoirement la Russie. Elle va encore accroître la distance avec les armées européennes, dont certaines font déjà figure de bonsaï au niveau des équipements, rendant de plus en plus difficiles les interopérabilités, finalement les coalitions entre alliés. Enfin, l'incertitude sur d'où peut venir demain la surprise stratégique demeure. Sera-t-elle susceptible de réveiller à nouveau les Européens et quelle sera leur réaction? C'est une autre question qui mériterait un long développement. Merci beaucoup, Monsieur le Président.